Un début de saison drôlement intéressant pour le CF Montréal, anciennement l'Impact de Montréal, qui, au moment où on se parle, trône au sommet de la Conférence de l'Est avec 4 points sur une possibilité de 6 après 6 matchs. On en parle avec 6 points, pardon, oui, après 2 matchs. On en parle avec notre analyste Vandril Lefebvre. Salut Vandril!
Salut Johnny!
Bon, Vandril, on va commencer avec ça. Si on t'avait dit, il y a de ça un mois, que malgré le retard qu'on est allé chercher malheureusement durant le camp d'entraînement à cause de toutes les mesures sanitaires ici au Canada, on se retrouverait au sommet du classement après 2 semaines, tu aurais dit quoi?
Non, j'y aurais pas... Je l'aurais jugé impossible, mais j'y aurais pas cru parce qu'on s'attendait pas nécessairement à ça. Après, la saison est jeune, mais il y a quand même quelques enseignements, effectivement, qu'on peut tirer de ces deux matchs sur le visage qu'affiche l'équipe et le club.
Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'alignement du match, étant donné que le match est à 15h, donc tout ça va sortir dans environ une heure. Donc, on ne sait pas exactement quel type de formation on va utiliser aujourd'hui contre le Crew de Columbus. Mais simplement, pour vous rappeler ce qu'on a vu dans les deux premières semaines de la saison, Clément Diop devant le filet, la ligne défensive à 5 avec Mustapha Kiza, Kamal Miller, Rudy Camacho en plein centre. On a eu Joel Waterman dans la semaine 1. On a eu Kiki Struna dans la semaine 2 dans la charnière centrale. Zach Bourguillard sur la droite. Les milieux de terrain, Victor Wanyama, Samuel Piet et aussi Georgi Mihailovic et deux attaquants en Mason Toy et Romel Kyoto. Première question, est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, va ressembler à cela encore une fois aujourd'hui?
Ouais, je m'attends pas à beaucoup de changements. On dit que tu changes pas une équipe qui gagne. En tout cas, l'équipe a pas perdu en deux matchs. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait un core. Puis c'est important pour un entraîneur, Wilfried Nancy, qui prend en main une équipe, on démarre une saison. Oui, la rotation va devenir importante au gré des mésperformances, des contre-performances, pardon, au gré des blessures. Mais tu veux être capable de t'appuyer sur une base, un socle qui va te suivre tout au long de la saison quand même. Et moi, je pense que il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ces deux premiers matchs. Donc moi, je m'attends à un core qui va rester le même aujourd'hui. Et si changement il y a, ce sera un, deux ou trois petites subtilités à droite ou à gauche.
Ouais, peut-être qu'un Waterman reviendra prendre la place d'un Struna. On verra dans la charnière centrale. Maintenant, il y a des joueurs qui cognent à la porte, qui pourraient effectuer des retours au jeu, au moins dans l'alignement ou sur le banc pour le match d'aujourd'hui. On parle ici de Lassi Lapalainen et aussi de Jean-Yves Balutabla, de deux joueurs qui ont pris du mieux au cours des dernières semaines. Écoutons, si tu veux bien, l'entraîneur Wilfried Nancy, qui nous parle de la progression des deux joueurs et ensuite de ça, on pourra analyser.
Ça se passe très bien pour les deux, dans le sens que Lassi, c'est sa deuxième semaine, pratiquement sa deuxième semaine où il a repris avec le groupe complètement. Il était bien physiquement, mais il avait du mal avec le rythme collectif. Donc là, il commence à retrouver un peu ses bases. Il montre des choses intéressantes. Donc il sera bientôt prêt. Est-ce qu'il va être prêt ce week-end ou pas? Je suis encore en train de voir. Mais et pour Balou aussi, pareil, il est revenu de blessure. Donc Balou, il monte graduellement. Il retrouve ses qualités, il retrouve son niveau. Donc, ce sont des joueurs qui peuvent être disponibles, oui, effectivement, pour être dans le groupe des 20 joueurs.
Bon, Vandril, je te nomme les gars qui étaient sur le banc la semaine dernière. Amar Sedic, James Pantemis, Clément Baya, il y avait Bjorn Johnson, il y avait Joachim Torres, Joel Waterman, Eric Hurtado, Zoran Basson et Emmanuel Maciel. Si ces deux joueurs-là sont aptes à revenir au jeu, qui saute dans la liste de joueurs que je viens de te mentionner? Ou est-ce que, tout simplement, on donne à ces deux joueurs-là une semaine de plus avant de revenir dans l'alignement? Comment tu vois ça?
Écoute, c'est la complexité pour Wilfried Nancy de composer ses... je vais pas dire son 11, mais de composer son 18 semaine après semaine, parce que il y a des joueurs qui ont beaucoup de joueurs qui représentent de la profondeur et qui ont un profil assez similaire. Ouais. Et donc, ça peut être difficile de composer avec
et,
ça.
Et dire moi, maintenant, qu'en fait, présentement, c'est 20 joueurs qu'on a le droit d'habiller. Et malgré tout ça, on a de la difficulté à faire des choix. C'est pas une mauvaise nouvelle.
Non, t'as bien raison, Jérémy. T'as bien raison. C'est vrai. En plus, c'est 20 joueurs avec le contexte pandémique. On sait que ça évolue. Puis, moi, je veux m'intéresser parce que les 20, ce qu'on appelle, on peut faire des choix liés à, OK, celui qui est sur le terrain en ce moment, je sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement le meilleur qui s'assoit sur le banc. C'est le meilleur dans les circonstances de qui compose le 11 et qui est capable de faire 90 minutes. Ça, c'est la première des composants. Mm-hmm. Mais moi, maintenant, tu m'as mentionné ces deux joueurs-là. Lassi Lapalainen, Balutabla. À l'heure actuelle, là, ces joueurs-là, dans le 11 tel qu'il est défini, tel qu'il est composé et selon le schéma tactique qui est proposé par cette équipe, Je ne les vois pas venir concurrencer qui que ce soit, pour moi, à l'heure actuelle dans cette équipe. Est-ce que dans trois semaines, on s'en reparle et ce sera différent? C'est pas impossible. Mais pour l'instant, pour moi, ce ne sont que des joueurs de profondeur.
Bon, du côté du Crew de Columbus, ils ont joué en milieu de semaine en Ligue des champions. Un match extrêmement frustrant, soit dit en passant pour eux. Là, leur entraîneur, Caleb Porter, a littéralement démoli la CONCACAF après le match, là, étant donné certaines décisions un peu farfelues. Donc, un match très émotif pour eux qui s'est terminé 2-2 contre Monterrey. Maintenant, ils vont jouer. C'est sûr qu'ils ont présentement la priorité sur la Ligue des champions, un tournoi qui s'achève. Mais logiquement, est-ce que des joueurs étoiles comme Lucas De La Reanne et Jazzy Zardes devraient être sur le terrain ou, selon toi, ça ferait juste du sens qu'ils ne seraient pas là, étant donné qu'il y a un autre match de Ligue des champions en milieu de semaine pour eux au Mexique cette fois-ci?
Ça dépend vraiment de leurs conditions physiques. Parce que j'ai deux schémas de pensée par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on est tôt dans la saison. Pour moi, il n'y a pas d'accumulation de matchs qui ferait que des joueurs, et c'est des jeunes joueurs lesquels dont tu es en train de parler, qui sont au pic de leur forme physique dans leur carrière, il n'y a pas de raison qu'ils sautent à ce stade-ci de la saison en mode gestion. Maintenant, si on juge qu'à très court terme, la grande priorité, et est-ce que Columbus Crew a fait de cette Ligue des champions sa grande priorité? À ce moment-là, si c'est le cas, oui, il peut y avoir une forme de gestion comme ça. Mais moi, j'aurais tendance à dire que quand tu es le champion en titre de la MLS et que tu es attendu par définition chaque week-end par tes opposants dans ton championnat domestique, bah, tu te dois de composer une équipe qui sera toujours capable de performer et d'assumer le statut que tu as.
En tout cas, j'ai très hâte de voir si le Crew aujourd'hui va lancer devant la cage Evan Bush, l'ancien de l'Impact de Montréal. On sait que les entraîneurs aiment utiliser cette carte-là lorsqu'ils ont des joueurs qui ont une motivation supplémentaire pour amener de l'énergie à l'équipe. Ce serait peut-être pas un mauvais choix, on verra. Maintenant, je vais te parler un petit peu de la philosophie chez CF Montréal, parce que clairement, on a une philosophie qui est complètement différente d'il y a peut-être 3 ou 4 ans, où on allait chercher des joueurs en Europe pour des montants qui, ma foi, semblaient ridicules, pour des joueurs qui, souvent, ne faisaient pas la différence. Et là, ben, on regarde plus du côté local. T'sais, on a ramené, par exemple, un Zoran Basson, qui est un Québécois, un gars de Longueuil, qui était en Europe. On l'a ramené ici. On a ramené le gardien Sébastien Breza, qui est un Québécois, qui était parti en Europe. On le ramène ici. Il y en a eu d'autres. Là, on peut penser à Zach Broguillard aussi. Écoutons, si tu le veux bien, Zoran Basson sur sa décision de revenir jouer son soccer au Québec en MLS pour l'équipe de son enfance. Et on pourra commenter ensuite.
Ouais, franchement... Je trouve que c'était la meilleure décision pour moi aujourd'hui, pour moi personnellement, pour ma carrière. J'ai eu un parcours en Europe, c'était bien. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, c'est normal. Et par rapport à tous ces obstacles-là, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure décision pour moi, c'était de revenir ici, à Montréal, où j'allais justement être proche de la famille, où j'allais justement être dans ma ville, ouais, d'une certaine manière. Bon, maintenant, on est en Floride, mais bon. Mais je suis avec des gars que je connais de longue date. J'ai un super staff, super coach que je connais depuis tout petit en plus. Et voilà, aujourd'hui, je pense que la MLS, c'est une ligue très, très, très intéressante. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de joueurs qui ont évolué ici et qui arrivent à aller se lancer et faire des grandes carrières en Europe. Donc, ouais, franchement, je trouve que c'est une très, très bonne décision de ma part. Et j'ai aucun regret par rapport à ça. Je suis heureux et je suis prêt à relever tous les défis là, qui arrivent.
Pour moi, Vandril, là, la façon de faire présentement, elle est meilleure que celle d'il y a 3 ou 4 ans. Et ensuite de ça, ben, peut-être investir les sous nécessaires pour, oui, faire venir des joueurs de l'extérieur, mais des joueurs qui font la différence et non des joueurs qui prennent la place des nôtres.
Jérémy, tu connais ma philosophie là-dessus. Oui, ce qu'on est en train de voir, ça me parle, ça me touche, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire bâtir avec du talent local autant que possible, du talent jeune, du talent finalement qui est encore à peaufiner, qui est encore à travailler et dans lequel on peut attendre beaucoup pour plusieurs années. Moi, j'aime ça. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait renier le passé de cette équipe au sens où je pense que c'est un cheminement, Jérémy. Les étapes par lesquelles le club est passé sous son autre nom il y a quelques années, dans ses débuts à la MLS, au milieu des années 2010, au moment où on avait une équipe très solide et qu'on était des prétendants à la Coupe MLS et même à la victoire en Ligue des Champions, je pense que c'est un chemin qui faisait partie de cette histoire et qui a amené, qui épousait un petit peu aussi la logique de la Ligue. Hein, tu te rappelles un petit peu la philosophie de l'Impact de Montréal à ce moment-là. Elle était très en phase avec la philosophie de la MLS de ce moment-là. Il y avait une forme de cohérence. Mais voilà, les choses évoluent et maintenant, c'est pas pour me déplaire. On en vient à dire, on veut bâtir des philosophies qui nous sont propres et ces philosophies vont passer par ça, ça, ça et ça. Et on met en place le plan et on fait venir surtout des ressources, des cerveaux. Je pense à Olivier Renard notamment, je pense à Thierry Henry l'an dernier, qui sont capables d'assumer une telle philosophie et de mettre en place la structure qui va non seulement la digérer, mais qui va faire en sorte qu'elle redonne ce qu'elle a à donner au public et sur le terrain. On est dans ce processus-là.
Ouais. En parlant de joueurs locaux et de Québécois, le Zach Broguillard, je pense, est devenu le premier Québécois de l'histoire de la MLS à se retrouver sur l'équipe d'Étoiles 2 semaines consécutives. Zach Broguillard, les 2 premières semaines de la saison, a été sélectionné comme joueur étoile. On a toujours su que Zach Broguillard avait ce potentiel-là, mais cette année, Vendry, je sais que c'est encore un échantillon très petit, mais il semble avoir pris une autre coche, comme on dit en bon québécois, et il a tout pour devenir un des meilleurs défenseurs latéral droit de la MLS, selon moi. Et attention, le téléphone risque de commencer à sonner dans les bureaux du CF Montréal s'il continue de jouer comme ça, là.
Jérémy, c'est peut-être ma surprise à moi de la saison. Pourquoi? Parce que il me laissait sur ma faim depuis 2-3 ans où il était arrivé, c'est-à-dire qu'on voyait quelqu'un qui avait un gros abattage, ce qu'on appelle un volume de jeu très intéressant, nord-sud, capable d'amener cette dynamique-là dans le couloir, mais il y avait toujours des mauvais choix, il y avait toujours du déchet technique au moment de faire ses centres, défensivement, il perdait des duels des fois qui étaient clés, alors qu'on voyait ce potentiel-là. Moi, pour moi, cette année, j'ai un joueur devant mes yeux, c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur, pourquoi ? C'est un joueur, on utilise cette expression dans notre milieu footballistique, entre guillemets, c'est un joueur qui joue juste. Et ça veut dire quoi, jouer juste? C'est tu es conscient de tes qualités, tu es aussi conscient de tes limites, mais tu les mets au service de ta bonne compréhension du jeu. Et ça veut dire jouer juste. C'est le moment où tu sais ce que tu as à faire, tu le fais de la bonne manière et tu t'en contentes. Tu n'essaies pas de surjouer ton rôle. Tu as un rôle, tu le fais à merveille et ça donne de bonnes choses. Et regarde, depuis le début de la saison, que ce soit défensivement ou offensivement, son rôle, il le remplit à merveille.
Ouais. Bon, dernière question, en une minute ou à peu près. Rudy Camacho en est à sa dernière année de contrat. Encore une fois, malheureusement, il est en Floride sans sa famille. Ses enfants sont à l'école et tout ça, ça devient extrêmement compliqué. C'est un de ces joueurs qu'on est allé chercher en Europe pour beaucoup d'argent. Il gagne 800 000 $ par année, beaucoup plus que la moyenne des joueurs de son type ou de son style. Il connaît quand même un bon début de saison, il faut le mentionner, mais il l'a dit hier en point de presse. C'est une année charnière pour moi, étant donné que je n'ai pas de contrat à la fin de l'année. J'ai comme l'impression, Vendril, que c'est un joueur qui pourrait quitter cet été, peut-être vendu à une autre équipe ou peut-être qu'il voudra s'installer tout de suite dans sa nouvelle ville pour que sa famille puisse commencer justement à s'y installer, que les enfants puissent commencer l'école dans la nouvelle ville, dans la nouvelle... Dans son nouvel endroit. Est-ce que tu vois la possibilité de voir un Rudy Camacho voir son contrat être extensionné ici à Montréal ou est-ce que malheureusement, là, c'est la fin pour lui?
Moi, je vois son contrat pouvoir être étendu, oui, mais pas dans les conditions dans lesquelles il a signé celui qui est en vigueur actuellement. Ouais. Rudy Camacho, je m'en cache pas, moi, c'est un joueur que j'aime bien. C'est pour moi le joueur le plus talentueux balle au pied de cette défensive depuis plusieurs années, même avec les nouveaux visages maintenant. C'est vraiment balle au pied, il a un talent qui est bien supérieur à la moyenne des défenseurs en MLS. Après, il est un peu gaffeur, hein, on le sait, il y a eu des moments. Donc, ça a été particulier. Maintenant, je pense que si le club est bon, il n'y a pas de raison de se départir d'un pilier en cours de saison, ça c'est sûr et certain.
Merci beaucoup, Vendril Lefebvre. On va te souhaiter un bon match cet après-midi dès 15h entre l'Impact de Montréal et le Crew de Columbus et on se reparle de tout ça la semaine prochaine.
Merci, Jérémy.
Salut, Vendril. Alors, mis à part, bien sûr, le match du CF Montréal cet après-midi, il y a, bien sûr, le Canadien ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa à partir de 19h. Émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dali Dubé dès 18h. Merci d'ailleurs à Martin McGuire d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Alex Agostino, Ray Lalonde, Max Lapierre, Bruno Eppel, Vendril Lefebvre. Merci aussi à Maxime Laniel et Denis Couture qui nous ont donné un coup de main au niveau de la manifestation près du Stade olympique. Merci aussi à Mario Gilles-Anglois à la mise en onde. Et tout de suite après la pause, on vous laisse avec les meilleurs moments de la poche bleue. C'est Yvan Cournoyer qui est l'invité. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. À la semaine prochaine, tout le monde.